Dans le cadre de leur émission Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent une série de 5 émissions inspirées par l'actualité et qui s'intitulera « Protestantisme et laïcité ». Aujourd'hui, protestantisme et laïcité sous le système concordataire. Et c'est à nouveau Éric Satie qui nous accompagnera avec sa première gnossienne.
Prétendant à un certain pluralisme religieux, le concordat instrumentalise de fait les religions qu'il maintient en rivalité. L'Église réformée de France a droit à 81 églises consistoriales, mais le premier consul, qui ne veut pas d'assemblée représentative, lui interdit église locale et synode. Olivier Desmond est nommé pasteur de Nîmes.
Après avoir imposé sa loi aux 4 religions autorisées, Bonaparte veut aussi contrôler l'éducation sous monopole de l'État. Premier pas de laïcisation, il institue en 1802 l'enseignement primaire sous responsabilité communale, les lycées de garçons, les seuls à dispenser un enseignement jusqu'au baccalauréat, les écoles privées appelées institutions ou pensions ne disposent plus des classes supérieures. En mars 1804, sans référence religieuse, le Code civil inclut état civil, mariage et divorce.
Voilà sous l'Empire, mai 1804-1814. La loi du 10 mai 1806 achève cette réorganisation en créant l'université impériale, un réel service public englobant enseignement secondaire et supérieur avec différents corps de fonctionnaires au service de l'État dans un esprit paramilitaire. En 1810, le Code pénal exigera le mariage civil en préalable au mariage religieux.
Puis vient la Restauration, 1814-1830, et refusant tout contrat social, Louis XVIII octroie une charte constitutionnelle à laquelle collaborent les juristes protestants Boissy d'Anglas et Chabot-Latour. Elle assure la liberté individuelle, celle de la presse, et conserve le concordat. Mais le catholicisme redevient religion d'État. Les biens nationaux non vendus sont rendus. Et des couvents se réinstallent. Et les nouveaux préfets autorisent les processions de la fête Dieu. En août, de Toulouse à Marseille, sévit la terreur blanche et plusieurs protestants s'exilent. La loi de Serres de 1819 définit comme délit l'outrage à la morale publique et religieuse, l'offense au roi, la diffamation et l'injure publique. Lors de son sacre en 1825, Charles X ne jure plus d'extirper l'hérésie, comme selon l'usage, et assure le pasteur de Sardan que dans le cœur du roi, il n'y avait ni catholiques ni protestants, mais des sujets, ou plutôt des amis ou des enfants. Mais il fait voter la loi sur le sacrilège, punie désormais de peine de mort.
Denis Moy, né en 1787, entre en scène. Deux petits-fils de pasteurs du désert, ayant fait leurs études à Genève, Samuel Vincent et François Guizot. Pasteur de Nîmes en 1809, Samuel Vincent traite des questions sociétales dans sa revue semestrielle, où, alliant rationalisme et idéalisme, il intègre les avancées de la Révolution. Société civile, droit de l'homme et du citoyen, notion de progrès, ces concepts libéraux seront repris par le christianisme social et le mouvement laïque.
Guizot, fils d'un avocat girondin, guillotiné à la Terreur, réfugié à Genève avec sa mère, adepte de Jean-Jacques Rousseau, suit à Paris des études de droit. Journaliste libéral, professeur d'histoire moderne en 1812, il écrira de nombreux textes sur le gouvernement représentatif, la peine de mort, des histoires de France et d'Angleterre, dont la monarchie est son modèle politique. Directeur général des communes et départements jusqu'en 1820, conseiller d'État en 1828, membre du consistoire de Paris, mais respectueux du catholicisme, il combat les tendances rationalistes.
Voici la monarchie de juillet en 1830. Élu député de Lisieux, Guizot est chargé par Louis-Philippe d'amender la charte, maintenue pourtant dans son principe. L'appel au suffrage populaire eut donné à la monarchie précisément le caractère que nous avions à cœur d'écarter. Il eut mis l'élection à la place de la nécessité et du contrat. Mais il prend soin de fusionner les articles 6 et 7. Le catholicisme n'est plus que la religion professée par la majorité des Français. Et les processions sont à nouveau interdites, comme toute manifestation extérieure. On garde le concordat, malgré les requêtes positives d'Auguste Comte, mais aussi du prêtre Lamennais, fondateur du journal du catholicisme social, L'Avenir, ou du pasteur Vincent. En 1832, Grégoire XVI définit la doctrine catholique contre la liberté absolue de conscience et aussi contre l'indifférentisme.
Ne pouvant s'exprimer politiquement, la rivalité religieuse se cristallise alors sur l'hôpital ou l'école. En 1831, le Conseil général du Gard établit une école normale pour 10 maîtres. Ministre de l'Instruction publique en 1832, Guizot fait de même dans chaque département, avec inspection académique et commission de surveillance associant religieux et laïcs. Il garde l'université napoléonienne, défend la neutralité de l'État entre les religions autorisées. Sa loi du 28 juin 1833 exige une école primaire pour garçons dans chaque commune de plus de 500 habitants. Des écoles communales ouvrent, mais surtout des écoles privées, subventionnées par les communes, et toujours pas de laïcité.
Notons que le concordat fut finalement très favorable aux églises reconnues. Avec l'argent public, réformés comme luthériens effectuèrent un travail social important et eurent alors de nombreuses écoles. Mais qu'en fut-il de la qualité du message évangélique délivré alors ? La suggestion à l'État modifiait la mentalité protestante. Soumission des notables, fonctionnarisme et renforcement du pouvoir pastoral, tentation épiscopalienne, développement d'un fort sentiment identitaire partisan. En rupture avec ces églises officielles, des églises indépendantes ou baptistes se constituent entre 1820 et 1830 et lancent un mouvement de réveil manifesté par un engagement social militant. Elle réclame en vain la fin du concordat dès 1848.
Le 24 février 1848 proclame la Seconde République, qui maintient le concordat. Le Nîmois Adolphe Crémieux, au Grand Orient dès 1818, sera 3 mois ministre de la Justice. Avocat juif célèbre, il avait défendu des victimes protestantes de la Terreur blanche en 1815. Apprécié de Louis-Philippe, il obtint en 1846 la suppression de toute référence religieuse pour un serment judiciaire. Le 23 avril, élit une constituante conservatrice. À Nîmes, des batailles de rue rapprochent catholiques et libéraux protestants contre les débordements populaires.
La constitution du 4 novembre 1848 installe l'ordre moral. Élu président en décembre, Louis-Napoléon remplace comme ministre de l'Instruction et des Cultes le républicain Lazare Carnot par le comte légitimiste Alfred de Falloux. Tandis que Victor Hugo tonne à la Chambre, l'Église chez elle et l'État chez lui, avec pour devise Dieu dans l'éducation, le pape à la tête de l'Église, l'Église à la tête de la civilisation. Falloux promulgue la loi de 1850 qui, si elle rend obligatoire des écoles de filles dans les villages de plus de 800 habitants, favorise l'enseignement catholique. Elle ne sera abrogée qu'en 2000.
Les maîtres de l'enseignement public formés dans les écoles normales sont payés par l'État, mais révocables par le maire ou le curé. Le programme comprend éducation morale et religieuse. Tant qu'aux enseignants de l'enseignement privé, dits libres, ils doivent être seulement titulaires du baccalauréat, d'un certificat de stage ou bien ministres d'un culte.
Le coup d'État du 2 décembre 1851 démissionne le Conseil d'État au culte Frédéric Cuvier, luthérien, et le plébiscite de novembre 1852 rétablit l'Empire, qui conserve le Concordat.
Les milieux étudiants républicains clandestins fréquentent alors le café Voltaire, place de l'Odéon. Deux jeunes avocats, Léon Gambetta et son aîné de 6 ans, Jules Ferry, qui écrit dans la presse d'opposition, y rencontre le président de l'Alliance israélite universelle, Adolphe Crémieux, le défenseur de toutes les minorités religieuses. Ce dernier contribue probablement à initier nos jeunes républicains à la franc-maçonnerie, encore déiste jusqu'en 1877. En 1870, Gambetta l'appellera pour être à nouveau ministre de la Justice pour quelques mois.
Comme en 1864, Pie IX condamne nationalisme, socialisme et libéralisme par l'encyclique Syllabus. En 1870, le Concile le déclare infaillible. Le catholicisme social s'incline alors que la bourgeoisie protestante, devenue majoritairement républicaine, s'implique dans le mouvement coopératif ou le combat laïque.
Les républicains concentrent leur combat contre l'enseignement catholique. Ainsi, Jean Massé, qui, professeur républicain, a été accueilli en 1851 dans un pensionnat protestant d'Alsace. Devenu lui aussi franc-maçon, il crée en 1866 la Ligue de l'enseignement. Comme un terrain neutre, politiquement et religieusement parlant, et qui place assez haut la question de l'enseignement populaire dans le sens strict du mot, pour accepter de le servir sur ce terrain-là, abstraction faite du reste. Et peu à peu émerge la notion de laïcité.
Voilà la Troisième République du 4 septembre 1870 au 10 juillet 1940. Commence une époque troublée, traumatisée par la défaite. Le 2 avril 1871, la commission de la Commune de Paris, dirigée par Édouard Vaillant, vote la laïcisation des écoles publiques. L'éducation devait y être gratuite, obligatoire et intégrale, à la fois de culture générale et professionnelle. Il faut qu'un manieur d'outils puisse écrire un livre. Ce projet généreux prit fin dans la semaine sanglante.
La République peine à se faire accepter. Dès 1873, Jean Massé lance avec succès une pétition sur l'obligation scolaire. « Allons, mon ami, puisque tu te dis roi et que tu veux la République, apprends ton métier de roi et de républicain, c'est le même. Apprends à considérer les affaires publiques comme affaires qui te regardent. Apprends la loi qui doit te régir. Apprends à la respecter d'abord et ensuite à la faire respecter. » Certains dans les milieux protestants, juifs ou libre-penseurs, réclament la fin du concordat. Mais bien que laïque, Jules Ferry, puis Jean Jaurès, préfèrent le maintenir et l'appliquer scrupuleusement pour mieux contrôler les églises.
Ministre de l'Instruction publique et des cultes en février 1879, Jules Ferry crée une école normale féminine à Sèvres, puis une agrégation féminine. Positiviste anticlérical, mais non antireligieux, il est franc-maçon depuis son mariage civil en 1875 avec Eugénie Riesler, d'origine protestante, mais il se méfie de toute religion jacobine, cause du bonapartisme. En novembre 1879, il salue les protestants comme une puissance amie, comme un allié nécessaire qui ne fera défaut ni à la République ni à la liberté. Maintenant possible le pluralisme, Ferry veut faire de l'enseignement une école de citoyenneté républicaine. Il nomme directeur de l'enseignement primaire le protestant libre penseur Ferdinand Buisson.
Président du Conseil des ministres en 1880, Ferry poursuit son œuvre avec Paul Bert. Le 12 mars, l'enseignement privé ne peut plus conférer de grade universitaire. Et le 29, on expulse les congrégations religieuses non autorisées. Le 21 décembre, l'enseignement secondaire d'État pour les jeunes filles est institué. Le 16 juin 1881, l'enseignement primaire devient gratuit. La même année, la loi sur la liberté de la presse interdit injures, diffamations ou provocations à la haine en raison de l'appartenance ou non à une religion, afin de protéger la liberté de religion. Mais par contre, elle tolère le blasphème, qui n'est qu'une protection de la religion.
Redevenu ministre en 1882, le 28 mars, il rend l'enseignement public obligatoire et laïcise les programmes. Le clergé catholique proteste, mais veut cependant préserver le concordat. En 1884, on supprime les prières d'ouverture de sessions parlementaires. Le 30 octobre 1886, vote de la loi initiée en 1882 par Paul Bert sur l'enseignement primaire qui devient laïque, ce qui en exclut des ecclésiastiques.
En 1888, pour sauver le concordat, Léon XIII reconnaît que pouvoirs temporels ou spirituels sont souverains dans leur domaine propre. La théorie protestante des deux règnes, en somme. Admettant différents régimes s'ils respectent les libertés, il invite les catholiques français à se rallier à la République en 1892.